Jésus va parler dans Hébreux 11, versets 35 à 38. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Alors, on va prier pour demander la bénédiction du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous venons en ta présence. Nous sommes des pécheurs, nous confessons tous les péchés que nous avons pu avoir commis en pensée, en parole, en action, en omission, en faute secrète. Depuis la dernière fois que nous sommes venus au trône de la grâce, Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur nous. Nous te demandons que ton esprit nous guide, nous anime, nous instruise, nous illumine, nous ouvre l'intelligence à la compréhension des principes qui sont contenus dans ce passage qui est si important. Seigneur, on te demande d'être avec nous et de te manifester avec puissance et force ce matin. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alors, j'ai intitulé le message aujourd'hui « L'apogée de la foi, la capacité de souffrir pour Dieu ». Alors, on sait, la foi, elle a un début, elle a une croissance. Mais quand on parle de l'apogée de quelque chose, c'est le sommet. On ne peut pas monter plus haut que ça. Alors, la foi, elle va se manifester dans son apogée par la capacité de souffrir pour Dieu. Alors, ce qu'on voit ce matin, c'est que l'auteur cherche à nous amener à réaliser qu'il y a eu des personnes dans l'Ancien Testament qui, à cause de leur foi, ont souffert beaucoup et ils décrivent toutes sortes de choses qui ont été découverts par ces gens-là. Ce qui est important, c'est qu'on fasse le lien avec aujourd'hui. Parce que, bien sûr, nous, on vit dans une société en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, où on n'est pas persécuté. On peut dire jusqu'à un certain point souffrir, parce que des fois, à cause de notre foi, on a des rebuffades, on a des moqueries, des choses semblables. Mais si on compare ce qu'on a vécu pour Christ, ces gens-là, avec ce que nous on vit aujourd'hui, c'est de la rigolade, là. Nous, on souffre pas comme... C'est sûr, on souffre à cause qu'on est chrétien, mais pas comme eux. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on retienne là-dedans? Faut te replacer dans le contexte si on veut comprendre. Hébreux, c'est un livre qui est écrit à des personnes qui étaient des Juifs nouvellement convertis et qui étaient, comme on pourrait dire, au blanc, qui étaient vraiment chauffés par leur environnement et ils étaient... tenter de retourner dans le judaïsme à cause de leur souffrance. L'Éternel leur montre que la supériorité de Christ sur le judaïsme, c'est infini. C'est ce qu'on a vu dans tout le développement de l'Épître aux Hébreux. Et quand il nous arrive dans le fameux chapitre qu'on appelle le chapitre des héros de la foi, il nous en a montré différentes facettes. On a vu celle d'Abraham, on a vu celle différente. On a regardé au cours des semaines précédentes différentes sortes de foi. Là, cette semaine, il nous présente, je l'ai appelé l'apogée de la foi parce que c'est vraiment des personnes qui, à cause du fait qu'ils croyaient en Jésus-Christ, ont souffert énormément des choses qu'on a besoin d'apprendre parce que les circonstances qu'on vit actuellement, ça ne veut pas dire qu'on va les garder indéfiniment. On voit des signes. Actuellement, le gouvernement sont en train de passer des lois où simplement dénoncer le mal va pouvoir éventuellement nous amener d'être considéré, ça serait considéré dénoncer le mal comme un crime haineux. C'est déjà dans l'air. Alors, on ne sait pas dans combien de temps les circonstances qui ont été similaires à ces gens-là peuvent revenir. Mais il y a des principes qu'on a besoin d'apprendre à l'intérieur de ce passage-là qui sont énormément importants. Moi, quand je lis ça, je me dis, moi, je ne me vois pas me faire torturer. Moi, je ne me vois pas aller en prison, me faire scier et tout ce qui est décrit là-dedans. Je sais que je ne suis pas, comme on dit en québécois, frémé pour ça. Mais ce que les Écritures nous apprennent, quand on lit le dernier verset, « Eux dont le monde n'était pas digne », on voit qu'il y a une approbation divine. Donc, leur comportement dans les circonstances extrêmement difficiles qu'ils ont traversées ont reçu l'approbation divine. Qu'est-ce qu'on doit retenir là-dedans? Est-ce que ça veut dire qu'à cause qu'on est des bons chrétiens, qu'on suit le Seigneur, qu'on prie, qu'on va au culte, que s'il reviendrait des circonstances semblables, que le Seigneur nous éviterait ces choses-là? Je pense que le texte ne nous enseigne pas ça, bien au contraire. Il nous enseigne qu'on pourrait traverser des choses aussi difficiles qu'eux, mais la question qu'on se pose, c'est comment nous, qui sommes peureux, pourrait-on traverser des périodes ou des épreuves aussi difficiles sans que l'on fasse l'apostasie, qu'on renonce à notre foi? Bien sûr, il y a une réponse qui est très simple, c'est que Dieu soutient les siens dans ces choses-là. Et moi, tout ce que j'ai lu dans les livres concernant ceux qui vivaient des circonstances difficiles, c'est toujours la grâce de Dieu qui te permet de traverser ça. Parce que nous-mêmes, par nos propres forces, on en serait absolument incapable. Mais je pense qu'une des leçons qu'on a besoin d'apprendre, c'est que le Seigneur, si jamais il permet que des circonstances semblables reviennent dans nos circonstances à nous, il faut qu'on se souvienne de ça, il faut que ça soit profondément ancré en nous. Parce que si on serait, disons, emprisonné ou torturé, la première idée qui nous viendrait à l'esprit, c'est « Voyons donc, Seigneur, je marche droit, je lis ma Bible, je vais au culte. » Là, on penserait, comme la plupart des gens qui sont dans des grosses circonstances comme ça, qu'on est abandonné du Seigneur. Mais c'est la principale leçon qu'il faut retenir du texte aujourd'hui. Même si le Seigneur laisse aller les siens dans des circonstances difficiles comme ça, il les accompagne toujours, il les aide toujours, il les soutient toujours, il leur fait grâce, ils sont capables de passer à travers. Quand on lit dans l'histoire de l'Église, par exemple, tout ce qui s'est passé durant l'Inquisition, ou ce qui s'est passé dans d'autres périodes difficiles où on a torturé des chrétiens, il y en a qui sont allés au bûcher en chantant. C'est comme... Hey, aller au bûcher en chantant, là. Moi, je veux dire, si on me dirait, on te pogne, on t'accroche après un poteau, puis on t'attache, puis on te met le feu. Est-ce que, naturellement, je serais porté à chanter? Je serais porté à avoir peur au bout? Vraiment, c'est faut se replacer vraiment dans les circonstances de ces gens-là pour comprendre. Comment ils ont fait pour chanter? Comment Paul l'a fait dans le Nouveau Testament lorsqu'on le voit qu'il avait été fouetté, et durant la nuit, il devait avoir le dos en sang, le dos lacéré, ça devait faire mal, pas à peu près. Puis durant la nuit, qu'est-ce que le geôlier les a entendus faire? Chanter. Mais c'est pas naturel, ça. Alors, c'est ce qu'on a besoin d'apprendre ce matin, c'est que parfois, dans les circonstances difficiles, le Seigneur nous laisse aller dans ces circonstances-là, mais que nous, il ne faut jamais céder à la tentation de penser qu'il nous abandonne, il nous soutient et il permet qu'on soit capable de passer à travers. Alors ça, c'est la leçon en gros. Alors l'apogée de la foi, la capacité de souffrir pour Dieu. Ce qu'on va regarder dans le verset 35, le premier verset du verset 35, c'est souffrir dans l'abandon apparent de Dieu. C'est ça que je disais tantôt, quand il arrive des circonstances comme ça, Dieu nous laisse torturer, Dieu nous laisse emprisonner, Dieu permet que toutes ces choses-là que ces gens-là ont vécues, on aurait l'impression qu'il nous a abandonnés. Donc, l'abandon apparent de Dieu, verset 35, première partie. Souffrir dans l'abandon réel de tout, verset 35 à 37. Et souffrir dans l'abandon tragique des hommes, verset 38. On va les réviser toutes les trois tantôt. Alors, on fait une révision de ce qu'on a vu depuis le chapitre 11. C'est important qu'on fasse la révision pour non seulement que les gens de l'époque comprenaient ce qui se passait, qu'ils essayaient de leur expliquer, mais pour nous également aujourd'hui. Alors, on avait vu dans le chapitre des héros de la foi, qui dans le fond commence à la fin du chapitre 10, qui ça nous dit, le verset 10, verset 38-39, « Mon juste vivra par la foi. » Donc, toute personne nouvellement sauvée doit apprendre que la vie chrétienne, ça se vit en exerçant la foi. D'abord, on la reçoit de Dieu comme un cadeau et dans sa grâce souveraine, Mais dans le courant de la vie, on se doit de l'exercer. Exercer notre foi, il nous la donne comme cadeau. Mais après, il faut apprendre à faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances. C'est sûr que c'est facile de dire à Dieu, « Oh, je te remercie, tu me bénis, j'ai un beau travail, j'ai de l'argent, je fais des voyages, j'ai une belle maison, je gèle pas. » Mais qui nous prive de ça, disons, puis qui nous fasse rentrer dans une prison, cachot humide, puis qu'ils permettent qu'on soit torturé, là, peut-être qu'il y aurait un petit bousculement dans notre foi, et on aurait vraiment besoin, là, de sentir que Dieu ne nous abandonne pas. Et il ne nous abandonne pas non plus. Alors, il nous dit, mon juste vivra par la foi, mais il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. On se souvient que c'est la conclusion de tout ce qu'on a vu à partir du chapitre 1, aller jusqu'à la fin du chapitre 10. Avant de rentrer dans le corridor de la foi, là, il leur dit ça. Nous, on ne se retire pas, nous, la foi qui nous a été donnée par Dieu, et on a, mon juste vivra par la foi. Dans verset 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils étaient tentés de faire? Se retirer, se retourner dans l'ancien système judaïque. Il dit, nous, on ne fait pas ça. Parce que là, ils venaient juste de se faire rappeler la supériorité infinie de Jésus-Christ et ils se devaient de maintenir leur marche en dépit de toute la pression que les Juifs pouvaient mettre sur eux. Mais il dit, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, ce qu'on apprend là-dedans, c'est que le juste vit par la foi et qu'il y a une sorte de foi qui est une foi à salut. Il y a des sortes de foi qui ne sont pas des foi à salut. Mais ce n'est pas le thème ce matin, là. Mais ça, c'est important de prendre ça. Alors, depuis le début du chapitre 11, on avait d'abord défini ce qu'était la foi. On avait compris que c'était un don de Dieu par grâce souveraine, que cette foi-là doit avoir un objet. L'objet de la foi, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et qu'elle se doit aussi d'avoir été implantée dans l'âme par la régénération ou la nouvelle naissance du Saint-Esprit, et que la foi, dernière chose, pour qu'elle soit authentique, elle se doit de produire des fruits. Une foi qui ne produit pas de fruits est une foi morte, et une foi morte, par définition, ce n'est pas de la véritable foi. Dans un autre sermon, on avait appris de la foi du modèle et du père des croyants, celle d'Abraham. On avait aussi étudié des illustrations du pouvoir de la foi à travers les événements les plus significatifs de plusieurs héros de la foi. Isaac, Jacob et Joseph, on avait vu la foi face à la mort. Moïse, on avait vu la foi face à nos décisions. N'est-ce pas qu'on a une multitude de décisions à faire quand on marche par la foi? Et on avait vu celle de Josué et de Rahab, qui était la foi face à nos combats. Dans notre dernier sermon, on avait illustré des accomplissements de la foi à travers 5 juges, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé et Samuel. On avait vu la foi, une illustration de la foi du roi David, et on avait vu que l'ensemble des prophètes de l'Ancien Testament avaient aussi exercé leur foi dans des circonstances, la grosse majorité du temps, très difficiles. Alors, toutes ces personnes eurent à vivre leur foi dans des circonstances difficiles, et cependant, ils connurent tous des importantes victoires. Alors aujourd'hui, même à travers ce qu'on va décrire comme étant des choses extrêmement difficiles, pas juste difficiles, extrêmement difficiles, Dieu accorde des victoires même dans ces choses-là. Ça, c'est important de se rendre ça important dans le coco, comme d'aplomb, comme on dit. Alors, les derniers témoins mentionnés dans le chapitre 11 du livre des Hébreux nous démontrent que la foi atteint parfois des sommets extraordinaires. Bon nombre de croyants ont souffert énormément durant la période de l'Ancien Testament. D'autres ont souffert le martyre. Cependant, les Écritures nous donnent le témoignage qu'ils ont tous été vainqueurs. Sur le coup, ça ne paraissait pas d'une victoire, mais ça en était une. Dieu a pourvu à leur donner la force nécessaire pour qu'ils puissent vivre leurs épreuves et leurs difficultés avec héroïsme et conserver leur foi fidèlement. Dieu garde et préserve les siens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis que nous subirions également des tribulations et des persécutions. Le Seigneur ne nous a jamais menti à nous. Dans le Nouveau Testament, il a toujours dit que si on vit pieusement en Jésus-Christ, nous aussi, on va subir le traitement qu'il a subi lui-même. Alors, quand il nous dit de calculer la dépense, c'est parce qu'il faut s'arrêter puis dire, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Moi, ma réponse, c'est, j'ai pas ce qu'il faut. Mais, par sa grâce, j'ai ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut comprendre. Faire le lien. Luc 14, versets 26 à 28. Le Seigneur lui-même parle, Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, c'est ça qu'on voit ce matin, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et de voir s'il a de quoi la terminer? C'est quoi la dépense pour nous de dire on va vivre notre vie chrétienne dans la fidélité, peu importe les circonstances qui permettent qu'il arrive? Calculer la dépense, c'est qu'il faut savoir au départ que ça peut nous coûter cher, ça peut nous coûter des souffrances. Mais Dieu dit qu'à travers les souffrances, il peut nous soutenir et permettre qu'on soit victorieux. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations. Une tribulation, c'est des circonstances difficiles. Puis là, il dit pas c'est par une tribulation, c'est par beaucoup de tribulations plurielles qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pas qu'on n'est pas au conscient de ça, puis qu'on n'est pas au courant. Dieu, Jésus nous a avertis lui-même. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 16. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Il prend ici l'image d'une fournaise pour nous dire qu'on va être chauffé à blanc à un moment donné. Il dit, faut pas se surprendre de ça. Verset 13, « Réjouissez-vous, au contraire, de la peur que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Vous voyez, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si quelqu'un nous chante des bêtises parce qu'on y annonce l'Évangile, on devrait être dans la joie et dans l'allégresse parce que ça nous dit ici que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Manger des bêtises à cause du Christ, il ne faut pas se surprendre de ça. C'est ça qu'il est en train de nous dire dans 1 Pierre. Puis il dit dans le verset 15, « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Alors, on va regarder le premier point. « Souffrir dans l'abandon apparent de Dieu. » Verset 35, A. Qui nous dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » De quoi il parle? Il parle de deux choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Des femmes que leurs fils sont morts et que deux prophètes ont permis que les enfants ressuscitent. Alors, quand il dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection », c'est que Dieu a permis que deux grands prophètes, un Élie, l'autre Élisée, permettent que des enfants qui étaient morts soient ressuscités. N'est-ce pas que si vous auriez un enfant, puis que vous seriez convaincu que c'est Dieu qui vous l'a donné, puis que vous perdriez l'enfant, la mort physique, perdriez votre enfant, n'est-ce pas que vous auriez l'impression d'être abandonné, un abandon apparent de Dieu? Je dis bien abandon apparent. Le mot clé, c'est le mot apparent. Il peut arriver que certaines épreuves produisent chez les croyants l'idée fausse et farfelue que Dieu les a oubliés ou abandonnés. Soyons assurés que c'est le malin qui nous suggère ces blasphèmes. Rappelons-nous les histoires des veuves qui perdirent des fils et qui les recouvrèrent par la résurrection. On va aller les lire, les passages courts. 1 Roi 17, versets 22 à 24. « L'Éternel écouta la voix d'Élie Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Elle avait perdu son fils. Dieu a permis que Élie ressuscite son fils. On a un autre exemple, quand on dit « des femmes », donc au moins plus qu'une. Il y a l'exemple aussi dans 2 Rois, chapitre 4, versets 32 à 36. Là, on a l'exemple d'Élisée. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Voyez-vous deux exemples de personnes qui avaient très certainement l'impression que Dieu les avait abandonnés complètement, et Dieu permet qu'il soit ressuscité. Est-ce que ça veut dire que si nous, on aurait un enfant qui mourrait, Dieu permettrait qu'il soit ressuscité automatiquement? Ben non. Mais c'est des exemples que la foi permet des choses extraordinaires. Même dans les moments où on se sent abandonné par l'Éternel, un abandon permanent, il faut garder la foi en Dieu. Souffrir dans l'abandon réel, verset 35, à partir de verset 35b jusqu'à 37. D'autres furent livrés au tourment. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer. Après ça, on va les reprendre un par un, puis on fait quelques commentaires. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Alors, est-ce que Dieu n'abandonne jamais l'authentique croyant? Ça, je dirais que s'il y a une idée, une seule idée à retenir aujourd'hui du sermon, c'est celle-là. Dieu n'abandonne jamais l'authentique croyant, peu importe les circonstances, peu importe l'apparence. Parce que c'est sûr que si Dieu permettrait que vous alliez en prison, zone prison, là, les prisons de cette époque-là, ce n'est pas les prisons modernes. Aujourd'hui, c'est quasiment des chambres d'hôtel, les prisons. Ils ont les télévisions, ils ont leur propre petite toilette là-dedans. Mais à l'époque, les prisons, c'était sur le sol, mais bien souvent en dessous du sol, et c'était enchaîné par des menottes au poignet, puis des, en anglais on appelle ça des shackles au pied, et c'était, il y avait de la vermine là-dedans, extrêmement mal nourri, c'était des endroits sombres, humides, ça fait que quand tu es dans un endroit comme ça, je suis pas sûr que pour garder ta foi, il faut vraiment que tu gardes tes yeux sur Christ. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, Christ vient à l'intérieur de toi et il permet que tu gardes espoir malgré toutes ces choses. Donc, Dieu nous soutient puissamment dans nos épreuves au moyen de la grâce. C'est important de se souvenir que c'est pas par nos forces. Parce que si on oublie, si on passe des circonstances difficiles puis on se dit, ben j'aurai jamais la force de passer à travers. Là, tu dis bien une phrase intelligente. Je n'aurai jamais la force de passer à travers. Oui, c'est vrai. Mais avec Dieu, tu vas avoir la force de passer à travers. Alors, on va examiner quelques raisons possibles pourquoi Dieu permet que les siens subissent de si grandes souffrances et de tels outrages. Ça, j'ai trouvé ça dans le livre d'Arthur Pink. Il mentionne 5 raisons possibles. Il dit qu'il peut en avoir beaucoup d'autres, là, mais je vais vous donner 5 raisons possibles pourquoi Dieu permet. On peut toujours se poser la question, pourquoi Dieu, qui dit qu'il aime ses enfants, permet que ses enfants connaissent et vivent des expériences aussi lourdes, aussi difficiles? Il en nomme 5. La première, il dit, pour que sa puissance soit rendue plus manifeste, perçue par tous. Donnez un exemple. Il y a eu des saints, comme tu disais tantôt, qui sont allés au poteau en chantant. Et il y a eu des saints qui, je me souviens d'un en particulier, qui avait signé une apostasie pour être libéré. Et ils l'ont remis en prison temporairement. Et le lendemain, il est revenu du champ d'idées. Puis quand il a été le moment de le brûler, il a dit, je voudrais que ma main qui a signé l'apostasie la première fois soit brûlée en premier. Voyez-vous, une personne qui avait pris conscience, qui avait fait une erreur monumentale, et par la foi, Dieu lui donnait la force d'être capable de dire une pareille chose et s'en aller au bûcher. Et quand on lit toutes les histoires qu'il y a dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église, de la manière dont les martyrs se sont comportés dans des moments semblables, on ne peut pas faire autrement que d'être ébloui. Parce qu'on se dit, ça ne peut pas qu'un être humain naturel agisse comme ça. Donc, si ce n'est pas un être humain naturel qui agit comme ça, c'est qui? C'est un être qui est régénéré, qui est soutenu par la grâce. Alors, les méchants et les païens ont toujours été fortement impressionnés devant le comportement héroïque et résigné des croyants placés devant des épreuves surhumaines. Il y a eu même des conversions. Il y a des bourreaux qui ont vu des chrétiens agir lors des moments difficiles comme ça, et ils ont tellement été impressionnés par la manière dont ils réagissaient, et là, ils regardaient ça, ils disaient, voyons donc, on est malade, là. Comment ça qu'ils ne crient pas, qu'ils ne hurlent pas, qu'ils ne blasphèment pas leur Dieu? Pourquoi qu'ils ne signent pas tout simplement un petit document en voulant dire, j'abandonne ma foi? Et il y a des personnes qui ont été sauvées juste par l'observation de ces phénomènes-là. Alors, quand on dit pour que sa puissance soit rendue plus manifeste, c'est que une personne placée dans des circonstances difficiles comme ça, s'il y a des gens qui le voient agir saintement, en soumission, il ne comprend rien. Là. Et là, il se dit, il y a quelque chose en arrière de ça. Et ça le met face à la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui permet ça. Sans ça, ça n'a pas de bon sens. Deuxième raison, leur marche chrétienne et leur décision scellent de façon admirable qu'ils sont prêts à mourir pour la vérité qu'ils professent. Alors, on a vu que le Seigneur disait, oui, il faut que tu sois prêt à tout abandonner, ton père, ta mère, ta frère, tes sœurs, hein, même ta vie, pour amour pour moi, sinon tu n'es pas digne d'être mon disciple. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils venaient témoigner? Ils venaient sceller la vérité de cette phrase-là. « Je suis prêt à donner même ma vie pour dire que je crois en un Dieu, et ce Dieu-là, c'est la vérité. » C'est vraiment un saut important. Troisième raison, pour encourager et fortifier la foi des chrétiens plus faibles et les convaincre que c'est possible, par la grâce de Dieu, de demeurer fidèles dans les circonstances les plus difficiles. Alors souvent, quand il y avait des arrestations en groupe, c'était... Il n'y allait pas tout en même temps, nécessairement. Alors le fait que des chrétiens plus faibles voient leurs frères, leurs sœurs, agir d'une façon héroïque, ça leur donnait de l'encouragement et de la confiance. Quatrième, pour donner aux croyants une évidence sensible de ce que Christ a souffert pour eux, quoique les souffrances substitutives de Christ à la place des croyants soient infiniment supérieures et grandes. Ici, c'est comme si Dieu disait, « Va vous montrer c'est quoi souffrir. » Pour que vous mettiez vos souffrances en relation avec celles que Christ a subies pour vous. Et les deux ne se comparent même pas. Parce que ce que Christ a subi sur la croix, à notre place, c'est infiniment supérieur à toute souffrance qu'on peut nous avoir infligée sur la terre. Il y a vraiment une... Et la cinquième raison, pour faire percevoir aux chrétiens la terrible réalité de l'enfer qui amènera des souffrances éternelles et d'une plus grande ampleur que toute souffrance terrestre. C'est sûr qu'on peut penser à toutes ces choses-là si toutes ces choses-là sont vraies. Leçon. Si Dieu permet que ceux qu'il aime subissent de pareils traitements, à combien plus forte raison il infligera des tourments à ses ennemis qu'il tourmente l'enfer? Quand on se met à réfléchir un petit peu à ça, si Dieu permet que ça arrive aux siens, combien plus quand il va être le temps de punir les méchants, ils vont peut-être subir des choses. Alors, on va examiner un petit peu en détail toutes les choses qui sont mentionnées, juste pour faire quelques petites observations. Alors, la première chose qui est mentionnée dans le verset 35, c'est « D'autres furent livrés au tourment ». La plupart des commentateurs pensent ici qu'il s'agit du supplice de la roue. La roue, c'est le nom d'un ancien supplice où le condamné, après avoir eu les membres brisés, était exposé sur une roue jusqu'à ce que mort s'ensuive. Selon la résistance du condamné, l'agonie sur la roue pouvait aller de quelques heures à plusieurs jours. Pour atténuer le supplice, les juges ajoutaient parfois à la sentence que ce qu'ils appelaient un retentum, qui enjoignait au bourreau d'étrangler la victime à un moment donné. Autrement dit, il y avait juste le bourreau qui était au courant. Si le juge lui avait dit à un tel moment ou après tant de temps, je te permets de l'étrangler. Mais ici, j'ai trouvé des illustrations sur Internet. Je vous dis que c'est pas. Ce qu'on voit, c'est que on pense que la personne était d'abord attachée sur ce qu'on appelle une croix de Saint-André, comme un X en bois. On l'attachait solidement là-dessus et on prenait des bâtons et on lui cassait tous les os. Les membres, les mains, on lui cassait tous les os. Et après, j'ai une illustration ici, ceux qui sont intéressés à le voir, je vous le montrerai après le culte. Et il y avait comme un poteau et sur ce poteau-là, il y avait une roue. Et il prenait la personne et le mettait sur la roue pour que la roue tourne et cette personne-là décédait comme ça à petit feu. Et on dit, dans ce que j'ai lu sur Internet, disait qu'il y avait des personnes qui avaient des constitutions physiques tellement fortes que ça durait des fois 2 jours et 3 jours. Imaginez-vous, vous avez tous les membres cassés. Jour et nuit, si vous devez dormir debout, vous devez perdre connaissance. Ça devait être terrible comme fin, là. Alors, des fins comme ça, là, où il y en a d'autres qui croient que ça pouvait être le supplice de l'étirement. Alors, on avait comme des genres de rouleaux à chaque bout des pieds puis des mains, et on attachait les personnes et on roulait les rouleaux jusqu'à ce que les os se disloquent. C'était. Alors, ça, c'est des genres de choses, quand on dit d'autres furent livrés au tourment. Comment on en arrive à savoir que c'est la roue? C'est à cause des mots grecs qui sont utilisés. D'après ce que j'ai lu, les mots grecs expriment l'idée de la roue. Alors, c'est des supplices qui existent depuis l'Antiquité. Et souvent, on faisait... ce qui rendait la chose encore plus difficile pour un croyant, c'est que normalement, c'était des supplices qu'on donnait à des gens qui étaient des criminels endurcis, là, des vrais bandits, là. Et on prenait un croyant et on lui faisait subir le même traitement. Donc, en plus de la douleur, il y avait l'humiliation extrême. Donc, c'était vraiment des personnes livrées à cela. N'acceptèrent point de délivrance. On offrait parfois aux condamnés d'être délivrés et même d'être promus socialement s'ils renonçaient publiquement à sa foi. Vous, c'était habile, hein? Il arrivait devant le monde, il disait, si tu renonces, si tu dis, tu signes un document comme de quoi tu abandonnes ta foi, on va te libérer, et même on lui offrait une promotion sociale, on va te donner tel poste, mieux payé, bien, c'était terrible. C'était vraiment le malin qui travaillait. Alors, les croyants acceptaient de subir les plus cruelles souffrances plutôt que d'être traîtres à leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le but de Satan n'était pas de détruire leur corps, mais de détruire leur âme pour l'éternité. Leur choix était le suivant. Ou jouir du confort dans leur corps durant cette vie terrestre, ou de mépriser leur destinée éternelle au ciel avec le Seigneur. T'as le choix. Ou bien non, tu subis un traitement physique qui est terriblement douloureux pour quelques heures ou quelques jours, puis tu signes un document comme de quoi que tu renonces à ça. C'était pas vraiment des choses faciles qui leur faisaient vivre. Autrement dit, ils les mettaient sous une pression énorme. Après ça, ils leur disaient, si tu signes un papier, on te libère. Puis ça nous dit, ici, ils n'acceptèrent point de délivrance. La plupart, on passe à travers. Il y a probablement dû, dans l'histoire, des gens qui ont signé, mais est-ce qu'on peut déduire que ce n'est pas des véritables chrétiens? Je pourrais pas dire, c'est pas moi qui veux me prononcer là-dessus. Et il disait, afin d'obtenir une meilleure résurrection, encore dans le verset 35, Ces martyrs chrétiens étaient conscients que Dieu les ressusciterait pour la vie éternelle. Autrement dit, ils se disaient, peu importe ce que tu me fais subir ce côté-ci, moi je suis convaincu que quand je vais ressusciter, il m'a ressuscité sur le bon bord. Ça, c'est important. Alors, la résurrection, elle avait deux choix possibles. La résurrection pour l'enfer avec les méchants ou la résurrection pour le paradis avec le Seigneur, les anges et tous les autres croyants. D'autres subirent les moqueries. Les moqueries ont été le lot de tous les prophètes de l'Ancien Testament, ainsi que tous les serviteurs et servantes de Dieu au cours de l'histoire de l'Église. Satan utilise ses serviteurs pour utiliser cette puissante arme. Il sait que nous la craignons tous. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça se faire moquer de lui? Personne n'aime ça. Et Satan l'utilise de façon continuelle parce qu'il sait qu'on est sensible à ça et il sait qu'on va tout faire pour essayer de se libérer de cela. Voyez-vous, on va prendre un exemple qui est dans l'Ancien Testament pour nous montrer que ça existait dans l'époque de l'Ancien Testament. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. » Mais ça dit dans le verset 16, « Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. » Ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de Dieu contre son prophète devint sans remède. Pas nouveau, là. Et là, je prie un verset, mais on pourrait prendre des centaines d'exemples dans l'Ancien Testament où la moquerie était utilisée comme arme pour essayer de faire changer la marche chrétienne de quelqu'un. Autre chose qui est mentionnée, le fouet. Alors, les sortes de fouets, à l'époque de l'Ancien Testament, étaient nombreux. Il y avait le genre avec des lanières de cuir. Et il y avait il se parle avec des scorpions. Quand le fils de Salomon, celui, le jeune homme, qui a consulté les jeunes qui ont vécu avec lui, c'est avec des scorpions. Alors, c'était un genre de fouet avec une lanière. Mais au bout de la lanière, on attachait comme un genre d'osselet qui était comme un pointu. Et ça, quand tu fouettais quelqu'un avec ça, c'est que l'osselet finissait par rentrer dans la chair de la personne. Puis quand tu le ressortais, ça arrachait des morceaux de chair. Alors, il y a plusieurs croyants de l'Ancien Testament qui ont subi le fouet. Plusieurs grands serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament subirent la peine du fouet. On va prendre l'exemple dans le Nouveau Testament, Actes 22, 25. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, on parle de qui? On parle de Paul. Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? » Alors, on sait que ça existait encore à l'époque du Nouveau Testament. Le fouet, ça existe, c'est vieux, comme la terre presque. Alors, il y a beaucoup de croyants qui ont subi la peine du fouet pour demeurer dans leur foi. Les chaînes et la prison. J'ai fait un petit peu de recherche sur Internet pour regarder un petit peu l'histoire des chaînes et l'histoire je sais pas comment on appelle ça en français, là. Je sais le nom en anglais, c'est bizarre que je cherche ça en anglais, pas en français. Aux pieds. Les shackles, ce qu'on appelle les fers, peut-être. En tout cas, de toute façon, c'était comme un bracelet, un gros bracelet de métal qu'on t'attachait. Et ces bracelets de métal-là étaient, bien souvent, t'étais attaché avec tes propres pieds aussi. Puis toutes ces choses-là étaient attachées sur le mur. Ça fait que ça devait être très inconfortable. Alors, il y a eu beaucoup de personnes qui ont subi à la fois ce traitement-là des chaînes et les prisons. Ça dit les chaînes et la prison dans le verset 36. À cette époque-là, les cachots étaient sombres, sales, sans fondation. C'était pas sur du ciment ou du... Moi, j'ai travaillé dans un pénitencier pendant 4 ans à Condeville. J'ai vu les cellules des détenus. C'est comme une petite chambre d'hôtel. Elle est petite, mais quand même, c'est relativement confortable. Pas ça, là. On parle pas de la même chose. Il était sans fondation, humide et sans lumière. Parce que quand je travaillais en prison, souvent quand quelqu'un était mauvais garçon, on disait qu'on le mettait dans le trou. Mais le trou, c'est tout simplement une cellule qui était privée, il n'y avait rien dedans. Et il restait là, des fois 48 heures, 72 heures, 3 jours de trou, 4 jours de trou. Mais à l'époque, d'où ça vient l'expression le trou? C'est qu'à l'époque du Moyen Âge et avant, c'était vraiment un trou dans la terre. On mettait la personne dedans, on mettait le couvert, tu restais là. Une journée, deux journées, trois journées, quatre journées. Fait que quand on parle de prison, là, à l'époque de l'Ancien Testament, faut pas mêler ça avec les prisons modernes, ça n'a rien à voir. Alors imaginez-vous quand vous êtes dans des conditions comme ça, c'est extrêmement difficile de garder tes yeux centrés sur Christ. Mais les Écritures nous disent que non seulement c'est possible, mais Christ va te soutenir. Mais rappelons-nous qu'il y a des liens, il y a des chaînes qui sont encore beaucoup plus dangereuses que des chaînes physiques. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité des morts en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alors, on parle de liens, c'est comme les chaînes. Et acte 8, 23, où on parle du magicien, il dit « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Être dans les liens de l'iniquité, être enchaîné par le malin, être obligé de faire sa volonté, c'est quelque chose de bien pire que d'être enchaîné physiquement par des chaînes physiques. Ils furent lapidés, verset 37. Mais ça, on sait tout, c'est quoi être lapidé? Ils prenaient une personne, puis ils disaient qu'elle avait supposément péché contre l'Éternel. On prenait des roches, puis on se mettait tout ensemble, puis on lui garochait sur lui jusqu'à ce qu'il crève. On a un exemple de ça dans 1 Roi, chapitre 21, versets 11 à 14. Naboth, on sait que le roi convoitait sa vigne et qu'il avait proposé à Naboth d'acheter sa vigne. Naboth a dit, je veux rien savoir, l'Éternel a toujours dit qu'on se devait de garder l'héritage qu'on avait reçu de nos pères et il a refusé. Jézabel n'était pas une femme facile. Elle dit, garde bien, on va t'arranger ça. Donc, on va lire le passage. 1 Roi 21, versets 11 à 14. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Autrement dit, elle leur avait dit, dites publiquement qu'il a blasphémé contre l'Éternel, puis un blasphème contre l'Éternel, à l'époque de l'Ancien Testament, la condamnation, c'était être lapidé. Ben, quand il les a fait compter des mensonges, parce qu'elle était puissante, tout le monde a eu peur, on dit « OK, on va dire ce qu'elle a fait ». Fait que là, ce que ça a fait, publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent et se mettent en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. « Naboth a maudit Dieu et le roi ». Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé ». Et il est mort. Voyez-vous, un homme qui voulait obéir à l'Éternel, c'est un croyant, Naboth, il a dit « Non, je ne veux pas te la vendre, ma vigne, parce que Dieu nous a dit de ne pas vendre l'héritage qu'on a reçu. » Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté très cher. Autre verset 37, « Scier ». Tu te demandes tout le temps, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir dire par « scier » Et là, je fais encore des recherches sur Internet. Le supplice de la scie, ça existe dans l'Ancien Testament. On pense que, selon la tradition juive, Ésaïe serait mort scié. Ésaïe le prophète. Mais ça ne vient pas de la Bible. C'est pas raconté dans la Bible, mais c'est raconté dans des livres qu'on peut croire que c'est véritable et qu'on dit que sa fin, ça a été cela. Alors, on croit généralement que le supplice de la scie était connu des Hébreux. La tradition juive raconte qu'Ésaïe fut littéralement scié en deux par le méchant roi Manassé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage du roi Manassé, mais ce roi-là, il était pourri, là. Plus pourri que ça, tu meurs, là. Il a appris ses propres enfants, ils avaient fait passer au feu pour les offrir à Moloch. Il était hyper violent. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait, ça. Il consultait les devins. Un roi enraciné dans le mal jusqu'au dépasser les oreilles. Et ça nous dit que ce roi-là, parce qu'Élie allait le voir, puis il faisait des reproches. Imaginez-vous un être de la pareille sorte qui lui fait des reproches en public. Oh mon Dieu, c'est risqué. Alors, qu'est-ce que Manassé a fait? Il l'a fait scier en deux. Il dit, tu vas te la fermer parce qu'on va te faire scier en deux. Alors, à cause de ses impiétés. Mais ce qui est merveilleux aussi là-dedans, c'est que quand on lit l'histoire de Manassé, qu'est-ce que les Écritures nous apprennent? Qu'un jour, Manassé a été emmené et il s'est repenti profondément. Et l'Éternel lui a fait grâce, il l'a ramené dans son pays. Et là, Manassé a commencé à se comporter comme du monde. Moi, ce passage-là, il m'a toujours touché profondément. Parce que quand tu regardes ça, tu te dis, être pécheur comme ça, c'est-tu possible? Pécheur, plus pécheur que Manassé, là, c'était pas mal difficile. Ça nous dit qu'il a péché plus que tous les autres rois avant lui. Il était pourri à l'os, le Seigneur lui a fait quand même grâce. Quelle beauté! D'autres torturés, bien là, bien entendu, torturés, là, on pourrait en parler jusqu'à demain matin. Parce que les formes de torture qui ont existé dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, dans toute l'histoire de l'Église, et même encore aujourd'hui, ça existe tout partout. S'il y a bien un art dans lequel la dépravité de l'homme se manifeste depuis la nuit des temps, c'est bien dans celui de faire souffrir ses congénères. La torture et le supplice n'ont cessé de se développer. Toute l'imagination inventive et débridée, tordue, méchante et sadique de l'homme, s'est exprimée par les moyens les plus cruels et les plus terrifiants. Si vous allez, si ça vous intéresse, l'histoire de la torture, allez sur Internet. Il y a des sites qui sont consacrés uniquement à ça, qui vous montrent des images. Tu ne restes pas là très longtemps, normalement, quand tu n'as jusque-là. La capacité, le raffinement de l'homme pour inventer des choses pour faire souffrir les autres, c'est inimaginable. Et si les Écritures ne nous disent pas de quelle façon ils ont été torturés, ils nous disent seulement que les croyants de l'Ancien Testament ont été torturés. De toutes les façons possibles et imaginables. Si on pourrait commencer à s'imaginer comment ils ont pu faire, les sites web sont remplis, des livres qui ont été écrits là-dessus, je vous dis, c'est pas très réjouissant de commencer à aller regarder ça parce qu'on devient... Moi, je vais vous dire, j'ai déjà regardé un livre que j'ai trouvé sur les supplices qu'on faisait souffrir aux croyants à l'époque de l'Inquisition. Un livre que j'ai trouvé sur Internet et le livre est rempli d'illustrations, pas des photos, parce que ça n'existait pas à l'époque, mais à l'époque, il y avait des artistes qui mettaient en illustration ce qu'ils faisaient aux gens. Pour vous dire, vous tournez quelques pages, là, puis après 15 ou 20 pages, je vous pogne un haut le cœur. Au point que je priais en dedans de moi-même, je disais, Seigneur, j'ai honte d'être un être humain. J'ai honte d'être un être humain. De penser que des êtres humains sont capables de faire de pareilles choses à d'autres êtres humains, c'est là où on voit la dépravité. Si quelqu'un a de la misère avec la doctrine de la corruption, la doctrine de la dépravité, qu'il s'en aille à regarder ça, puis je vais vous dire une affaire, si après avoir lu ça, il dit que l'être humain est bon, vous me l'enverrez. À torturer. Après ça, ils dirent qu'ils moururent par l'épée. Bien entendu, les croyants de cette époque-là ont été tués par l'épée, moururent par l'épée. On va prendre un exemple. 1 Roi 19, versets 9 et 10. Et là, il entra dans la caverne. Ici, on parle d'Élie. Il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. » Voyez-vous, Isaïe, là, c'est un témoin visuel, là, premier ordre, et là, il témoigne contre son propre peuple. Il dit, « Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. » Alors lui, il avait l'impression qu'il était tout seul. Mais l'Éternel, on se souvient qu'il lui a répondu, « Je m'en suis réservé 7 000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. » On a aussi dans Jérémie, chapitre 26, versets 20 à 23. « Il y eut un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaja, de Kirjath-Jéraïm. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les mêmes choses que Jérémie. Le roi Joachim, tout tous ces vaillants hommes et tous ces chefs entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Uri, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et alla en Égypte. Le roi Joachim envoya des gens en Égypte, Elnathan, fils d'Akbor, et des gens avec lui en Égypte. Ils firent sortir d'Égypte Uri et l'amenèrent au roi Joachim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Puis on pourrait multiplier les exemples. À l'époque de l'Ancien Testament, dans l'histoire de l'Église, des gens qui sont morts par l'épée à cause de leur foi, c'est chose commune. Maintenant, on va prendre notre troisième point. C'est souffrir dans l'abandon tragique des hommes. Il existe deux genres de persécution. Celui provoqué par la rage meurtrière des hommes et celui de la misère de ceux qui cherchent à échapper à la mort en fuyant lors des persécutions. Les versets 37b et 38 nous parlent de cette dernière. Autrement dit, c'est qu'il y a des gens qui, lorsqu'il y avait des menaces d'être tués à cause de leur foi, ils se poussaient. Ils se poussaient dans les montagnes, ils se poussaient dans les cavernes, ils se poussaient dans les déserts, ils se poussaient partout. Mais ça, ici, quand on dit souffrir dans l'abandon tragique des hommes, c'est que le sort de ces hommes-là, c'est comme si c'était pire que des bêtes. S'il y avait des êtres, si ces gens-là osaient aller demander de l'aide à quelqu'un, eux autres, ils avaient reçu des ordres très précis que si quelqu'un était condamné par les autorités, puis qu'ils savaient que c'était un fugitif à cause de sa foi, l'aider pour eux autres, c'était... Alors, ils devenaient pires que des animaux. Et c'est là qu'il nous parle dans les versets 37b et 38. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils avaient été obligés de quitter leur maison, quitter leur foyer, quitter leur ville, leur famille, et ils devaient probablement leur enlever leurs vêtements. Parce qu'ils nous disent que ces gens-là étaient vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. C'est sûr que si tu laisses des gens partir dans ces conditions-là, que les gens, à un moment donné, vont rencontrer des bêtes puis vont vouloir les tuer pour se nourrir et les tuer pour se vêtir. C'est ce qu'ils faisaient. Alors, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Leurs misères furent si grandes qu'ils furent réduits à vivre comme des bêtes sauvages et à se vêtir avec des peaux d'animaux. C'est ça, les croyants, que le Seigneur nous parle ici. Et dans le verset 37, on continue, il dit « dénués de tout ». Dénués de tout, c'est sûr que si les gens te mettent dehors, puis te poursuivent, puis te persécutent, on a juste à lire l'histoire de la Réforme, où il y a eu des périodes où les gens ont été obligés de s'enfuir des montagnes, les albigeois, les huguenots, ont été obligés de se poursuivre des montagnes, et les Français, à l'époque, les poursuivaient, là, on les appelait les dragonnades, les poursuivaient tout partout. Puis il demandait aux jeunes, les avez-vous vus? Alors, tu étais pogné pour agir, ne pas avoir d'interaction avec les êtres humains, puis à vivre comme une bête. Alors, dénué de tout, ça le dit, t'as rien, zéro. Persécuté, maltraité. Persécuté, il y avait des gens qui te couraient après toi, puis s'il y a des gens qui te trouvaient, puis tu leur demandais de l'aide, tu n'en recevais pas, tu étais maltraité. Ce furent des croyants privés de foyer, privés des nécessités primaires de la vie et à qui on refusait toute assistance. La persécution les forçait à se déplacer sans cesse, bien sûr. Quelqu'un qui court après toi, personne ne veut t'aider. T'as intérêt à changer de place. Sans aucun doute que Satan profitait de ces moments pour leur souffler des pensées blasphématoires d'avoir été abandonné, d'avoir un Dieu impuissant, d'autres sottises du genre. Imaginez-vous, vous êtes dans des conditions comme ça, Satan vient vous voir et il dit, viens vous voir dans votre pensée. Voyons donc, pas de bon sens ce que tu dis là. Tu dis croyant, ton Dieu qui est puissant, regarde ce qu'il fait là, il fait rien. Imaginez-vous, ça doit venir chercher quelque chose en toi, là, ça prend vraiment de la foi pour passer à travers. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les andes de la terre. Ça parle de quatre choses, les déserts. Si vous lisez un petit peu sur les déserts, ceux qui ont vécu à l'intérieur des déserts, dans le jour, c'est hyper chaud. La nuit, tu gèles. C'est ça qui est bizarre. Hein? Fait que, imaginez-vous, là, dans le jour, il n'y a pas grand-chose à se nourrir là, dans un désert, là, à part que de payer une petite bête de temps en temps. Alors, il était dans un désert, le jour, torturé par le soleil, la nuit, gelé comme... Après ça, ça dit dans les déserts, les montagnes, on a l'histoire des albigeois, l'histoire des huguenots. Souvent, ils ont été obligés de fuir des montagnes. Et là, c'était toutes des histoires. Quand ils savaient qu'il y en avait un qui s'était présenté dans un village et qu'il n'avait pas été dénoncé, les envoyés de la papauté disaient « Brûlez tout le village, Dieu saura reconnaître les siens. » Il y avait de la folie furieuse là-dedans, là. Alors, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre, les cavernes, on le sait, c'est des trous. Et il était obligé d'aller se réfugier là-dedans, à cause que, souvent, là, tu parles de Suisse, tu parles de France, tu parles de ces pays-là. Même en Israël, la nuit, te réfugier dans une caverne, ça ne doit pas être très chaud, là. Ni très confortable, puis risqué, parce que souvent, ces endroits-là, c'est les repères de bêtes. Alors, si tu t'en vas là, tu risques de faire une mauvaise rencontre à un moment donné. Les antres de la terre, c'est une sorte de trou que le monde finissait par vouloir aller là-dedans pour se protéger de la pluie, se protéger des animaux sauvages. Alors, il y a des gens qui ont vécu ça parfois des semaines, parfois des mois, parfois des années. Alors, imaginez-vous, ça prend des fois fortes. Mais ça me fait penser à quelque chose. Celui qui a parti la revue The Voice of the Martyrs, Wim Brand, quelque chose comme ça, il raconte dans son livre que quand il était emprisonné par les communistes dans des prisons un peu semblables à ce que je viens de dire, c'est-à-dire des prisons, là, il dit qu'à des moments donnés, il a senti presque la présence physique de Satan dans la cellule. Qu'on dit que Satan doit profiter du moment pour venir. Voyons donc, qui est ton Dieu, là? C'est ce qu'il veut, ton Dieu, pour toi. C'est lui, le Dieu, qui t'aime. Ça te rentre dans la tête. Il dit, c'est très difficile à supporter ça. Très difficile. Mais ce qui est bizarre dans la vie de ces hommes-là, quand tu lis leur biographie, c'est qu'ils deviennent plus forts. Ces gens-là, qui sont persécutés, emprisonnés, et auxquels on faisait passer des fausses rumeurs, à lui, Wim Brand, il disait, « Ta femme est morte, on l'a assassinée. » C'était même pas vrai. Alors, il y avait de la pression psychologique, il disait ses enfants, et il faisait passer des fausses rumeurs extrêmement difficiles. Alors, ces gens-là ont subi, et ce qui est curieux, c'est que ça nous dit que ces gens-là avaient une foi forte, inébranlable. Puis, ce qui est encore plus surprenant, c'est que normalement, quelqu'un qui, disons, qui a connu 8-10 ans dans des prisons comme ça, des prisons communistes, puis qui sortent, normalement, là, tu serais porté à aller te cacher puis à plus parler du Seigneur jamais. Ah, mais je n'ai eu assez, moi, là. Il n'était pas aussitôt sorti qu'il allait encore témoigner du Seigneur, au risque de leur vie, au risque de se faire réemprisonner. Y a-t-il quelque chose de mystérieux là-dedans? Bien sûr! Parce que normalement, un être humain, il serait porté à aller se cacher et dire « Moi, je ne veux plus rien savoir de rien. » Mais pour oser aller parler de Christ après avoir subi de pareilles souffrances, comment on peut expliquer de pareils comportements si ce n'est par le fait que Dieu les a soutenus durant tout, puis que leur amour pour Dieu va au-delà de leur confort personnel, au-delà même de leur propre vie. Parce que c'était risqué si tu y retournais, qu'il décide de « Bon, on a assez de toi, ping. » Puis il y a l'appareil. Puis nous autres, on est dans un pays où qu'on peut témoigner comme on veut. Le pire qu'on peut recevoir, c'est une tape dans la face, ou à peu près. Puis eux, leur risque était beaucoup plus important, puis pourtant, ils sont beaucoup plus... La grâce. Comment on peut expliquer? Moi, je suis sûr que la réponse, c'est la grâce. Et lui-même l'a dit dans le livre aussi, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose d'important dans le verdict divin, qui est le verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne. Cette phrase-là est dite par qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit regarde l'ensemble de la nuée de tous les témoins dont il vient de parler, puis il dit, le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ces gens-là, ils vous étaient infiniment supérieurs. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du texte d'aujourd'hui? Notre étude nous emmène à considérer comment la foi doit vaincre la peur des hommes. Nous apprenons comment les agissements de la foi nous conduisent à la victoire. Dans les temps de persécution, de danger, de grandes épreuves, nous devons nous souvenir des choses suivantes. Premièrement, que le Seigneur règne et est au contrôle absolu de toutes choses. J'aurai des versets, mais je n'aurai pas le temps de les donner. Je vais juste donner les idées. Deuxièmement, que Satan, les démons et les hommes ne peuvent rien faire sans la permission de Dieu. Troisièmement, tout mal intenté contre les croyants tourne à leur avantage. Comme ça dit dans Romains 8, 28, toute chose contribue au bien de celui qui aime Dieu. Quatrièmement, la foi obtient toujours par grâce la force, l'aide, le soutien et la consolation divine. J'aurai des versets, mon propre. Cinquième, la foi regarde vers le repos promis et se soustrait au présent conflit. Donc l'idée, c'est que la personne regarde toujours vers ce qui s'en vient et qui est proche et essaie de se soustraire de ça. Et ça marche parce que ces gens-là ont réussi. Que Jésus-Christ soit loué, béni et adoré. Amen.